Le e-sport ou comment la pratique du jeu vidéo en compétition se développe en France, en Asie, dans le monde entier. On poursuit donc notre discussion avec l'un des pionniers du e-sport en France, Rémi Chanson, et avec Nicolas Besombe, qui a écrit la première thèse en France consacrée au sujet. Le CIO, le Comité international olympique, a déclaré il y a quelques semaines que les joueurs qui pratiquent les e-sports se préparent et s'entraînent avec une intensité comparable à celle des athlètes d'autres sports plus traditionnels. Est-ce que ça veut dire ça, Nicolas Besombe, qu'on va voir le e-sport aux Jeux olympiques?
Alors, c'est rien de définitif, c'est seulement, en tout cas, ça montre un intérêt de la part du monde sportif institutionnel sur cette nouvelle pratique, ce phénomène émergent déjà depuis le début des années 2010. Et ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est pourquoi est-ce que ces institutions légitimes, étatiques, commencent à s'intéresser à l'e-sport, alors que jusqu'à présent, ils avaient plutôt tendance à s'en détourner. C'est qu'aujourd'hui, il y a certainement un intérêt à la fois économique de toucher une population un peu plus jeune en termes d'audience. Et puis évidemment un intérêt en termes de marché, c'est-à-dire que aujourd'hui l'e-sport notamment est énormément pratiqué, énormément consommé dans les pays d'Asie du Sud-Est, et il y a certainement un intérêt pour le CIO d'essayer de capter finalement cette audience-là également.
La difficulté, c'est qu'il n'y a pas en France, en tout cas, de fédération qui englobe tous ces jeux. Il faut dire que voilà, il y a des dizaines de jeux différents dans le e-sport, Rémi Chanson.
Alors, il y a évidemment beaucoup de jeux. Après, il faut distinguer les jeux dans lesquels il y a une scène professionnelle, compétitive. Et là, en France, par exemple, on parle de 5-6 jeux. Et puis des jeux où il peut y avoir des petites compétitions un peu le dimanche. Et là, en effet, on en a plusieurs dizaines. Donc, en effet, il n'y a pas de fédération. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est assez flou. Et quand bien même il y aurait une fédération, on ne sait pas forcément par quel bout elle prendrait cela. Mais pour rebondir sur ce que dit Nicolas, oui, ça montre un vrai intérêt. On pense déjà, il y a quelques années, les États-Unis qui avaient décidé de délivrer des visas d'athlètes aux joueurs e-sportifs étrangers qui voulaient participer aux tournois américains. Donc déjà, il y avait cette notion un peu sportive. Pareil dans les universités, où il y avait des cursus dans lesquels, avec le sport, il y avait des cours de jeux vidéo d'e-sport. Mais voilà, aujourd'hui, c'est un ovni. On ne sait pas forcément trop où le classer. Et c'est vrai qu'on est, enfin, en tout cas, les acteurs de l'e-sport trouvent ça très intéressant que les acteurs du sport s'y intéressent après plusieurs années où on était un petit peu mis de côté, quoi.
Avec des problèmes de droit aussi, parce que les éditeurs de jeux vidéo, pour les Jeux Olympiques, c'est pas comme un sport à part entière. C'est difficile justement de savoir à qui s'adresser pour avoir tous les droits télévisés, même d'utilisation de ces jeux, Nicolas Besombe.
Oui, tout à fait. La grande spécificité de l'e-sport par rapport au sport, effectivement, c'est que les jeux sont des biens privés qui appartiennent à des éditeurs, qui ont donc la charge parfois du développement de ce jeu et ensuite de sa diffusion et de sa promotion. Donc ça, c'est une vraie particularité qui fait une vraie différence avec le sport. Ça nécessite forcément, si on imagine un jour pouvoir créer des entités nationales légitimes, de pouvoir dans un premier temps discuter et se mettre autour de la table avec ces différents éditeurs. Plusieurs modèles sont envisageables, que ce soit des fédérations par jeu qui soient créées à terme, ou que les différents éditeurs arrivent finalement au niveau international à se mettre autour d'une table et à discuter entre elles. Mais effectivement, ce qui est encore plus intéressant, c'est que ça en vient à essayer de, en tout cas, à susciter de nouveaux modèles, même pour le monde sportif, en fait, parce que peut-être qu'à terme, ça nécessitera de changer ce modèle qui est peut-être un petit peu dépassé dans le monde du sport.
Il y a une dimension qui est intéressante, Rémi Chanson, et vous en parlez dans votre guide, c'est que dans le e-sport, et là on se rapproche du coup du sport traditionnel, eh bien, il y a aussi du dopage.
Oui, il y a du dopage. Alors, évidemment, ce n'est pas exactement le même que celui qu'on peut rencontrer dans le Tour de France et autres, hein, puisqu'on n'est pas sur l'EPO ou ce genre de choses-là. Mais c'est vrai qu'il y a des substances qui améliorent les facultés cognitives. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des joueurs, surtout dans les FPS, qui demandent vraiment une précision et une rapidité. Donc, c'est First Personal Shooter. En gros, c'est on faut tirer sur son adversaire. Ça va très, très, très vite. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une substance qui s'appelait l'Adderall, qui est aussi une substance qui est utilisée aux États-Unis pour les étudiants en mal, on va dire, de concentration avant certains examens. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des équipes qui l'avaient un peu institutionnalisé, alors qu'ils n'avaient pas besoin d'en avoir sinon.
Et ce sera le mot de la fin pour ces mots de l'info sur le e-sport. Merci à vous deux, Nicolas Besombe, docteur en sciences du sport, auteur donc de la première thèse en France sur le sujet, Rémi Chanson, l'un des pionniers de l'e-sport en France. Merci à vous deux.